Voilà, bonsoir à tous. Je vous propose que nous commencions notre soirée. Bienvenue pour cette 79e soirée d'éthique publique du Centre Sèvres, des facultés jésuites de Paris, la dernière de cette année universitaire en partenariat avec la revue Études. Bienvenue à vous qui êtes là ce soir et à nos amis qui nous suivent en une quinzaine de lieux en France, en direct ou en retransmission, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Poitiers, Aix-en-Provence, Grenoble, Saint-Étienne, Perpignan, Rouen, Vannes, Chaville, Niort, sans oublier Athènes. C'est donc la dernière soirée de l'année. Je vous propose de nous souvenir du chemin que nous avons fait ensemble tout au long des mois pour éclairer, pour nourrir notre réflexion dans un contexte national et international bien dense. Le mardi 4 octobre, nous avons débuté l'année en nous posant une question importante. Peut-on former une conscience morale à l'école? En partenariat avec les Semaines sociales de France, avec Paul Malhart, Antoinette Lecoq-Vallon et André-Pierre Gauthier. Le mardi 8 novembre, l'actualité politique et la publication du texte des évêques « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » nous ont conduit à nous interroger face à la crise du politique, quelle place pour les chrétiens, avec M. Philippe Portier, Mme Marie-Noëlle Lindemann et M. Charles de Courson. Le mardi 6 décembre, nous regardions vers le Proche-Orient et l'un des acteurs majeurs de cette région, la Turquie. Où va la Turquie? Quel jeu joue la Turquie? Avec M. Bayram Balci et M. Aurélien Denisot. Au début de cette année, nous avons repris un certain nombre de sujets touchant aux différents dossiers de l'année électorale. Le mardi 3 janvier, quels enjeux internationaux attendent la France et l'Europe? Avec Pascal Boniface et Douglas Herbert. Le mardi 14 février, nous nous sommes penchés sur l'état de la justice en France. Constat et enjeu avec Maître Paul-Albert Rivens et Denis Salas. Le mardi 7 mars, en partenariat avec le département d'éthique biomédicale, nous avons changé de registre, si je puis dire, en regardant notre alimentation, se nourrir mieux pour une meilleure santé, point d'interrogation, vers une alimentation durable et préventive, avec le docteur Christian Remézy et le professeur Joël Ménard. En avril, le mardi 18, nous sommes restés autour d'un sujet qui a bien occupé notre société française ces derniers mois. Dans les débats, vous vous en souvenez, quelle histoire de France enseigner? Y a-t-il un récit national? Avec M. Jean Lebrun et M. Franck Damour. Enfin, le mois dernier, en plein second tour des élections présidentielles, il nous a semblé important de réfléchir à ce que nous vivions. Politique, leçon d'une élection, enjeu pour les chrétiens, avec M. Jean-Marie Donegani, le père Grégoire Cata et M. Guy Orange. Grande diversité donc de thèmes, de sujets, avec des intervenants qui ont toujours manifesté une généreuse disponibilité pour ces soirées, malgré un agenda bien chargé, en espérant que les thèmes et les échanges que nous avons essayé d'avoir ensemble ont pu nous aider dans notre réflexion, dans notre discernement de citoyens et de chrétiens. Alors les soirées d'éthique publique reprendront à la rentrée. Retenez bien déjà la date du mardi 3 octobre. Et ces soirées seront désormais animées par M. Jean-Luc Poutier, qui sera le nouveau responsable du département d'éthique publique du Centre Sèvres, et le père François Heuvé, rédacteur en chef des études. J'en profite pour dire qu'à la sortie, vous pourrez, en plus du quotidien La Croix, vous procurez le nouveau programme du Centre Sèvres qui vient de sortir, c'est tout chaud, il sort du four. N'hésitez pas à le prendre et vous retrouverez combien il y a d'excellentes propositions dans cette maison et qu'il y en a sûrement une qui vous convient au point où vous en êtes de votre chemin. Ce soir, pour terminer l'année, nous avons souhaité parler d'Europe. Nous ne le faisons pas tout seul puisque nous nous sommes mis à plusieurs pour cela, plusieurs partenaires pour cette soirée. Nos amis du quotidien La Croix, avec notamment Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du quotidien, qui animera avec moi cette soirée. RCF, Radio Chrétienne en France, qui diffusera cette soirée sur ses antennes le mardi 20 juin prochain au matin, que RCF que vous pouvez écouter sur Internet en région parisienne et partout ailleurs sur le reste du territoire national, et les Semaines sociales de France, manière de préparer et d'annoncer la prochaine session qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochains à Paris sur ce thème « Quelle Europe voulons-nous ?» Alors oui, quelle Europe voulons-nous ? Pourquoi et comment relancer l'Europe ? C'est bien sûr un thème qui a été très présent dans cette année électorale dans notre pays. Et nous avons tous conscience que c'est un sujet majeur pour l'avenir de notre pays, pour la stabilité internationale aussi. Allons-nous continuer à assister à un délitement du projet européen comme le Brexit a pu nous le faire redouter ? Avons-nous les capacités de faire rebondir le projet européen 60 ans après le traité de Rome, lui redonner un ancrage démocratique et une vision qui mettront à distance les critiques vraies ou fausses de bureaucratie et de technocratie européenne? Par où et comment commencer? Alors pour nous aider à réfléchir à cela, nous sommes très heureux d'accueillir nos invités qui nous font la joie et l'honneur d'être avec nous ce soir et en premier lieu, M. Sandro Gozzi, secrétaire d'État du gouvernement italien chargé des affaires européennes. Vous me permettrez d'ajouter à la joie de votre présence ce soir le souvenir d'un autre grand européen et italien, M. Tommaso Padoa-Schioppa, ancien ministre italien de l'économie et des finances, qui nous avait fait la joie peu de temps avant son décès si subi en 2010, de venir nous partager ici même, en ce lieu, dans une de nos soirées d'éthique publique, ses convictions pour l'Europe. Merci beaucoup de votre présence et je vais laisser maintenant Jean-Christophe Ploquin vous présenter plus longuement, ainsi que nos deux autres invités, Madame Carole Ulmer, qui est directrice des études au think tank Confrontation Europe et qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, et Monsieur Stéphane De Vries, qui est avec nous déjà, qui est journaliste néerlandais. Je laisse la parole à Jean-Christophe.
Merci François, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, la Croix est effectivement très heureuse de participer à cette soirée sur le thème de l'Europe. Et effectivement, je vais dire trois mots pour présenter Sandro Gozzi, qui sera le principal intervenant de cette soirée. Donc vous êtes depuis plus de trois ans secrétaire d'État auprès du président du Conseil des ministres italien, délégué aux affaires européennes. Donc vous avez commencé avec Matteo Renzi et actuellement depuis six mois auprès de Paolo Gentiloni qui lui a succédé. Vous êtes membre du Parti démocrate, parti de centre-gauche italien. Vous connaissez très bien la France puisqu'après une licence à Bologne, à l'Université de Bologne, vous êtes venu passer un DEA de relations internationales à Sciences Po Paris. Et puis vous êtes un peu globe-trotteur peut-être, mais en tout cas Europe-trotteur, puisque après Paris, vous êtes allé à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi allé à la London School of Economics. Et à partir de 1999, vous avez été conseiller au cabinet de Romano Prodi, qui était président de la Commission européenne. Et alors, vous avez écrit un livre très intéressant qui est paru en France il y a deux ans, que je recommande à l'assistance si vous ne l'avez pas encore lu, qui s'appelle « Génération Erasmus ». Et finalement, vous vous revendiquez de cette génération, du nom de ce programme d'échange étudiant qui permet à des étudiants d'aller passer une année dans un autre pays européen pour poursuivre leurs études. Et vous expliquez dans ce livre que vous vous sentez un peu une dette, finalement, par rapport au père fondateur et vous vous définissez finalement d'une génération de fils refondateurs de l'Europe. Et pour vous, effectivement, dans la période que traverse l'Union européenne aujourd'hui, il est urgent que, évidemment, tout le monde, mais notamment votre génération, s'empare du projet européen et le refonde. Et dans votre livre « Génération Erasmus », vous parlez notamment des réformes structurelles du marché du travail, c'est un petit sujet d'actualité aujourd'hui en France, de relance économique par des programmes d'investissement européens. Vous parlez aussi de la question migratoire, de l'accueil des réfugiés. Et aussi, vous avez des petites phrases, des petites piques pour la technocratie bruxelloise qu'il faut un petit peu mieux contrôler, remettre de la politique finalement dans la construction européenne. Donc nous allons vous céder la parole. Je présente tout de suite Stéphane De Vries. Stéphane, donc vous êtes collègue en ce qui me concerne, journaliste né aux Pays-Bas. Mais vous vivez à Paris depuis deux décennies. Vous travaillez pour des médias internationaux, RTL Pays-Bas, la BBC, CNN et France 24. Je vous connais bien à titre personnel et je sais que vous êtes un observateur sans complaisance et parfois acerbe de la scène politique française et européenne également. Mais vous vous décrivez comme un fédéraliste. Avec vous, ce qui est intéressant ce soir, évidemment, c'est aussi un regard venant des Pays-Bas, même si vous êtes en France depuis 20 ans, mais les Pays-Bas, donc un autre des six pays fondateurs de l'Union européenne, avec la CE à l'époque, évidemment, la Commission économique européenne. Les Pays-Bas, c'est aussi l'autre pays du non au référendum constitutionnel en 2005, et c'est aussi l'autre pays du non à l'extrême droite lors des élections de ce printemps 2017. Donc on voit beaucoup de proximité entre la France et les Pays-Bas et aussi un regard et une histoire politique très différente. Je dis un mot de Carole Ulmer qui est en train d'arriver, qui a fini une réunion un petit peu tard, qui est directrice des études du think tank Confrontation Europe, qui est un think tank qui a été créé en 1991, notamment par Philippe Herzog, Jean-Pierre Levade et Michel Rocard, qui est aujourd'hui présidé par Marcel Grignard, ancien secrétaire général adjoint de la CFDT. Et donc, elle est économiste. C'est une ancienne élève du Collège d'Europe de Bruges et de l'IEP de Strasbourg. Voilà, Sandro Gozzi, à vous la parole. Donc, vous avez une demi-heure pour répondre en quelque sorte à la question quelle Europe voulons-nous? Je trouve que c'est intéressant aussi de vous avoir. Vous êtes italien et on peut-être que vous nous en direz deux mots, mais peut-être qu'on va assister à un alignement des planètes entre la France, l'Allemagne et l'Italie dans les prochains mois, puisqu'il est question que les prochaines élections législatives en Italie, c'est en 2018, mais peut-être qu'elles vont être anticipées. Et si des élections se passent à l'automne 2017 en Italie, on peut avoir un nouveau pouvoir en France, en Allemagne, en Italie, les trois plus grands pays fondateurs de la CEE, les trois principales économies de la zone euro, qui se mettent ensemble pour discuter de l'avenir de l'Europe. Voilà, ça peut se passer fin 2017, début 2018. Et nul doute que vous serez dans cette équipe, Sandro Gozzi. En tout cas, je vous le souhaite. Et c'est d'autant plus intéressant de vous entendre ce soir. À vous la parole.
Bon, je m'élève, je parle mieux. Bon, tout d'abord, merci pour votre confiance. vous avez une certitude que moi je n'ai pas d'être dans la prochaine équipe. Je ne suis pas un expert des physiques des planètes. Donc sur les alignements planétaires, je me permets de rester réservé. Merci Père Bodek pour cette belle occasion que vous m'avez donnée. Je savais que Tommaso Padoa-Schioppa avait aussi fréquenter ces lieux, et c'est pour cela que j'ai accepté avec plaisir, mais avec un grand honneur, parce que de reprendre les... Je n'ai pas l'ambition de reprendre les pas de quelqu'un comme Tommaso Padoa-Schioppa, mais ça me fait quand même plaisir qu'après un membre du gouvernement italien de telle envergure, vous ayez pensé à moi pour discuter ensemble sur l'avenir de l'Europe, et je remercie aussi Jean-Christophe Ploquin. C'est un plaisir de vous revoir dans un contexte européen, et j'ai aussi le plaisir de faire la connaissance de Stéphane De Vries, qui vous avez été présenté comme fédéraliste. Nous sommes très peu, donc il vaut mieux qu'on se connaisse, parce que l'union fait la force de ce point de vue. Donc merci, et merci à vous tous pour votre présence. Oui, je crois qu'il faut refonder l'Europe, et je crois que c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi une question de nouvel engagement générationnel. C'est pour cela que dans les livres qui a été mentionné, qu'il y a un an, pas deux ans, hein, vous l'avez vieilli à mon
avis. Oui, c'est vrai, absolument.
C'est 2006. Je parle d'un certain Emmanuel Macron qui, à l'époque, était très peu connu dans notre pays et très peu connu en dehors de l'Europe, je dois dire, au-delà des cercles des initiés. Et j'ai identifié Emmanuel Macron avec d'autres comme un des fils refondateurs de l'Europe. Et je crois que le fait que on est plusieurs, dans plusieurs niveaux de responsabilité, au top président de la République, mais dans d'autres en tant que ministre, en tant que parlementaire, etc. Et nous sommes plusieurs aujourd'hui à utiliser les mots « refonder l'Europe ». Les mots, ça signifie « action politique », ça signifie « engagement politique ». Et je suis d'accord avec l'engagement d'Emmanuel Macron pour refonder l'Europe. Moi, je crois qu'il est le temps des fils refondateurs. Et je crois que la génération qui a le plus et en première bénéficié de l'Europe doit rendre à l'Europe ce qu'elle a donné. C'est pour cela que je crois que notre génération des pionniers de l'Erasmus, ou disons les premières générations qui ont bénéficié de l'Europe qui offre des opportunités, qui multiplie les opportunités, et maintenant commencent à être au pouvoir dans plusieurs États européens, doivent assumer l'engagement de refonder l'Europe. Et donc, nous sommes d'accord et nous sommes prêts. Je ne sais pas si l'alignement planétaire fera en sorte que la nouvelle phase politique s'ouvre aussi avec l'Italie en automne ou au printemps, mais finalement, face à l'histoire, mais face à la perspective multiannuelle de la décennie qui s'ouvre, d'être aligné avec la France et l'Italie maintenant ou 6 mois plus tard, ça ne va pas changer grand-chose, pourvu qu'il y ait une Italie qui reste européenne, mais peut-être dans la deuxième partie de mon intervention, je vais en parler un peu. Pourquoi nous devons refonder l'Europe et pourquoi nous devons avoir l'ambition et la détermination, sans avoir froid aux yeux, de dire oui, nous devons refonder l'Europe, nous devons nous assumer la responsabilité, et nous pouvons. Nous pouvons nous assumer la responsabilité de refonder l'Europe. Pour savoir pourquoi nous devons refonder l'Europe, il faut s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles il faut la refonder. Et quels sont les défis, les facteurs, les problèmes qui doivent nous pousser à refonder l'Europe. Et pour moi, les grandes questions sont deux. Nous sommes dans un nouvel désordre international et nous sommes confrontés à l'Europe de la peur. Ce sont les deux raisons pour lesquelles nous devons refonder l'Union européenne. Nouvel désordre international. Nouvelle parce que je ne crois pas qu'avant on était dans un ordre international. On était dans un désordre de type différent. Les désordres internationaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'Européens, c'est beaucoup plus défiant et beaucoup plus dangereux pour nous. Et ça doit nous encourager à accélérer notre union et accélérer notre présence sur la scène internationale. Les raisons sont le fait que les grands acteurs internationaux aujourd'hui ont des visions du monde et ont des méthodes qui mettent en discussion les raisons profondes et les points de force profondes à l'origine de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas exister dans un monde qui renonce au multilatéralisme. Parce que l'Union européenne est la forme plus avancée du multilatéralisme, la forme la plus avancée des gouvernements, des gouvernances, des gestions, des interdépendances. Nous sommes là, si nous regardons l'Union européenne du reste du monde, on parlait d'alignement planétaire, restons sur la planète Terre, ça nous suffit. Mais si nous regardons l'Union européenne du reste de la planète, nous représentons la façon la plus avancée depuis la Deuxième Guerre mondiale des gestions des interdépendances et des gestions d'un nouvel mode de relations entre peuple et État. Est-ce que nous pouvons exister tel que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui fait les choix ou subit les choix du renoncement au multilatéral, du retour des balance of power, des rapports de force uniquement, et du retour des sphères d'influence, ou du retour d'une vision universelle du monde qui remet en question les principes autour duquel nous avons conçu notre vision universelle. Ce sont les défis qui sont devant nous en tant qu'Européens. Ils ont des noms, ces défis. Des légitimes, parce que nous n'avons pas les monopoles de la vision du monde. Nous pouvons avoir des ambitions, de proposer une vision universelle. Nous pouvons avoir des convictions éthiques, morales, avant que politiques, pour pouvoir concevoir le monde d'une certaine manière. Mais nous ne pouvons pas remettre en question la légitimité d'autres visions du monde, d'autres acteurs. Il faut savoir comment nous allons appréhender ces différentes visions du monde, comment nous allons les gérer et comment nous allons réagir face à la remise en question de certains aspects auxquels nous étions habitués, sur lesquels nous pouvions asseoir une certaine action internationale. Et quels sont les noms? Les nouveaux présidents des États-Unis, de façon légitime, nous ne pouvons pas partager ces propositions, mais de façon légitime, il est uniquement intéressé aux relations bilatérales. Il remet en question, de façon fondamentale, le multilatéralisme tel que nous l'avons pas seulement vécu, mais nous l'avons promu dans le monde. Parce que les grandes avancées du multilatéralisme dans le monde doivent beaucoup à l'action européenne. Prenons par exemple l'Organisation mondiale du commerce, qui doit beaucoup à l'influence européenne à l'époque de la globalisation positive, à l'époque où, de façon un peu naïve aussi, on ne voyait que les effets positifs de la globalisation, mais nous avons influencé énormément l'émergence d'une nouvelle façon de gérer les relations commerciales, c'était l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est seulement un exemple. Ou regardons ce qui s'est passé à Paris avec l'accord du climat, sur le climat, et ce qui s'est passé à Washington il y a quelques jours sur la sortie d'un grand partenaire comme les États-Unis de l'accord de Paris. Donc, première question, on a notre partenaire historique, notre allié fondamental, notre allié incontournable pour ce qui nous concerne, au moins en tant qu'Italie, qui a une conception des relations internationales et une conception de sa présence sur l'échelle globale qui est radicalement alternative à la façon dont nous, les Européens, jusqu'à maintenant, nous avons affirmé et de vouloir organiser ou gérer les grandes questions globales. Relations bilatérales. Donc la première question, c'est avec qui nous allons, en Europe, notre allié stratégique et partenaire américain va développer des relations bilatérales. Est-ce qu'il va les faire avec sur chaque dossier avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne, ou est-ce que nous choisissons d'être un acteur bilatéral sur les grandes questions? La réaction qu'il y a eu à l'annonce de la part du président Trump de se retirer des accords de Paris a été une réaction, je crois, importante. Le fait que les premiers, la chancelière allemande, le président du Conseil italien et le président de la République française aient réagi directement ensemble en réaffirmant l'importance de l'accord de climat de Paris pour construire notre avenir commun, c'était important. Mais ceci, c'est le genre de défi qu'en permanence nous allons avoir en tant qu'Européens de la part de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc nous devons savoir, est-ce qu'on est satisfait de la façon dont nous agissons dans le monde en tant qu'Européens, ou est-ce qu'on est milieu du gué, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses en plus qu'on doit faire pour devenir un acteur international véritablement influent à part entière, au moins à part entière, pas surtout, mais au moins sur certaines questions clés, qu'il s'agisse de la question du changement climatique, qu'il s'agisse de la question des grandes questions de sécurité, qu'il s'agisse des grandes questions commerciales. Comment nous voulons agir, et est-ce que ces défis des remises en question du bien fondé du multilatéralisme doit nous pousser ou pas à renforcer, accélérer notre intégration et notre union. Le deuxième défi, c'est que ce n'est pas seulement la balance of power qui est revenue en force dans ce nouvel ordre international, c'est aussi une logique des sphères d'influence qu'on pensait appartenir à notre époque, mais c'est une logique qui est revenue en force sur la scène mondiale, notamment avec un autre grand voisin, pas à l'ouest, mais à l'est. Parce que la politique et les positionnements de la Russie de Poutine, c'est une politique, un positionnement qui se fonde notamment et avant tout, pas seulement, mais notamment avant tout, sur une logique des sphères d'influence. La sphère d'influence signifie avoir un étranger proche et signifie être devoir comme un défi d'une autre part de donner une perspective européenne à l'Ukraine, par exemple. Ou alors, ça crée de facto une sorte de compétition entre les différentes offres qu'on donne aux Balkans. Au Balkan, il est clair, si vous regardez les débats en cours dans plusieurs pays des Balkans, c'est que dans les jargons bruxellois, on appelle les Balkans occidentaux, donc la partie des Balkans qui n'est pas encore rentrée. Je dis bien pas encore rentrée. Dans l'Union européenne, il est clair que vous avez de plus en plus au centre du débat politique et électoral dans ces pays des forces pro-européennes qui regardent à l'Union européenne et des forces plutôt nationales, voire nationalistes, qui considèrent qu'une relation, une nouvelle relation spéciale, forte, étroite avec la Russie peut être une alternative viable au parcours européen. Ce n'est pas un jugement des valeurs que je porte. Je peux avoir mes idées, mais il faut savoir, en tant qu'Européen, que ça, les défis qu'on a à nos portes. Et là aussi, on doit décider ce que nous voulons faire. Moi, je crois que c'était une erreur, la déclaration du président Juncker au début de la législature de 2014-2019, qu'il n'y a aucune possibilité d'élargir l'Union européenne aux pays des Balkans avant 2019. Non pas parce que je pense ou je pensais que cela était possible, mais parce que je pense que d'avoir dit de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais de toute façon, dans ces 5 ans qu'on a devant nous, vous n'allez pas rentrer dans l'Union européenne, ça a été un véritable coup aux forces européennes qui veulent réformer de façon plus démocratique leurs institutions, réformer de façon plus viable et efficace l'économie, et à donner, par contre, beaucoup d'armes aux forces nationalistes qui disent « Regardez, de toute façon, l'Union européenne ne donne aucune perspective concrète, donc nous devons chercher des alternatives ailleurs. » Nous pensons que c'était une erreur. Et il me semble que le fait qu'il y ait un nouvel activisme de la part de plusieurs membres de la Commission européenne dans les Balkans, très tardive, mais vaut mieux tard que jamais, démontre que la Commission européenne a compris qu'elle était en train de commettre une erreur stratégique. Et donc, nous devons avancer, et d'après moi, nous devons avancer beaucoup. Il y aura un sommet à Trieste le 12 juillet, dans lequel nous voulons essayer de relancer l'engagement européen vis-à-vis des Balkans. Ça, c'est un autre défi. Les défis des sphères d'influence de la Russie, nous le voyons de façon tragique, avec une Europe totalement absente, parce qu'on est très loin d'avoir une intégration telle qu'il puisse nous permettre, en tant qu'Européens, d'avoir un mot à dire dans des questions comme la Syrie. Mais là, c'est clair que là aussi, c'est une logique des sphères d'influence telle qui a inspiré l'action russe. Encore une fois, pas de jugement des valeurs. Nous devons ouvrir les yeux et regarder la réalité. Et savoir, face à cette réalité internationale, si nous voulons exister en tant qu'Européens, et si nous voulons exister en tant qu'Européens, comment, jusqu'où, pourquoi faire, dans quel domaine politique. Après, nous avons un autre défi, qu'il y a des filles qui ça, vraiment regardent et se développent dans la durée. Parce que pour la Chine, les Chinois raisonnent des passants millénaires. Et c'était Bergson qui disait que c'est la durée qui donne la forme des choses. Hein. Et du point de vue chinois, de façon avec une perspective et des temps qui sont beaucoup plus longs par rapport à celles avec lesquelles nous agissons, mais nous avons évidemment là aussi de façon finalement légitime l'émergence d'une nouvelle alternative, d'une alternative face à celle que nous pensions et nous avions décrit comme la fin de l'histoire. Une alternative au fait que nous avons toujours dit, nous Européens, que la démocratie libérale allait de pair avec l'économie de marché et avec, les développements économiques. C'était les mantras des Européens ou des Occidentaux et depuis la chute du mur de Berlin. Nous avons toujours dit que l'économie des marchés et les succès économiques et la prospérité économique devaient aller de pair avec un développement des institutions démocratiques. Et c'est comme ça que nous avons conçu l'élargissement de l'Union européenne. L'élargissement de l'Union européenne a été conçu autour des deux grands objectifs qu'on a proposés à ceux qui étaient du mauvais côté du rideau de fer. Construisez un parcours démocratique inspiré aux valeurs occidentales, état de droit, principes démocratiques, séparation des pouvoirs, et suivez notre modèle pour construire une économie de marché. Et à Copenhague, c'était les fameux critères de Copenhague, on a proposé un modèle de transition démocratique et un modèle de transition économique aux pays de l'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, nous avons des modèles d'économie de succès qui renoncent ou qui délibérément ne veulent pas être des modèles démocratiques. Et la Chine offre un bon exemple de comment on peut réussir une transition économique, même s'il y a beaucoup de choses à faire à la Chine, 1,3 milliard de Chinois, il y a des écarts énormes entre grands mégalopoles chinois et territoires agricoles, mais il est clair que les restes du monde a une alternative à ce qu'on proposait comme binôme. Les succès économiques et la prospérité passent par l'économie des marchés et la démocratie libérale. Les Chinois proposent au reste du monde un modèle de succès jusqu'à maintenant, qui passe par l'économie, qui passe par la liberté d'entreprendre, mais qui ne passe pas par la démocratie telle que nous la concevons en Europe et dans ce qu'on appelait l'Occident. C'est un autre défi. C'est un autre défi parce que finalement, je commence à revenir en Europe, finalement, aujourd'hui, nous avons même des pays européens qui pensent que finalement, on peut détacher démocratie et libéralisme. Et c'est pas je ne révèle pas des secrets, parce que c'était en première page, non, pas en première page, mais quand même en troisième page dans les Financial Times, la rencontre entre Viktor Orban et Kaczynski, où ils ont carrément affirmé le fait que finalement, cet binôme indissoluble entre démocratie et libéralisme politique, je ne parle pas de libéralisme économique, de libéralisme politique, finalement, ce n'était pas quelque chose auquel on devait nous ressentir engagés. Donc, vous voyez que même à l'intérieur de l'Union européenne, on a des défis. Alors, les défis principaux, et ce qui fait le succès aussi de ces discours, qui remet en question fondamentalement la façon dont nous concevons la démocratie et le développement et la prospérité à l'intérieur de l'Union européenne, d'après moi, c'est la peur. C'est le deuxième facteur, le deuxième défi, et la deuxième raison pour laquelle je crois que nous devons refonder l'Europe. Je dis, le nouvel désordre international, et je dis la paix. Aujourd'hui, c'est clair que l'Europe de la paix, c'est le pire ennemi de l'Union européenne telle que nous la voulons. C'est que l'Europe de la paix pousse au repli national, voire nationaliste. L'Europe de la paix pousse à renoncer à l'état de droit et aux libertés fondamentales en échange de plus de sécurité. Et l'Europe de la paix voit l'Union européenne, notamment, mais pas seulement, comme les meilleurs boucs émissaires et comme la cause de toute une série de questions et de problèmes que nous devons, auxquels nous devons faire face en Europe. Une bonne partie du succès des mouvements extrémistes, populistes, anti-européens, xénophobes, antisémites, néo-nazis, parce que ce sont ça les forces qu'on a dans les parlements nationaux et les parlements européens. C'est-à-dire, il faut ouvrir les yeux et abandonner les politiquement corrects. L'antisémitisme, l'extrême droite et les néo-nazis même sont revenus dans les parlements européens. Ils sont bien représentés dans plusieurs parlements nationaux. Il y en a même un allemand qui a été élu au Parlement européen. La cause principale, c'est la peur. Les Européens ont peur. Les Européens ont peur d'être massacrés quand ils vont écouter un concert rock au Bataclan, ou ils ont même peur quand, avec des familles, des mères et des filles, vont à Manchester à écouter une star pop italo-américaine comme Ariana Grande. C'était le massacre de Manchester. Les Européens ont peur d'une immigration qu'ils perçoivent comme pas maîtrisée, qu'ils perçoivent comme une invasion. Je ne dis pas que c'est une invasion, je dis que la perception de la plupart des Européens, c'est qu'ils sont en train de subir une invasion historique. Et je vous révèle un autre secret qui n'en est pas une, qui n'en est pas un. En politique, la perception vaut autant que la réalité. Et parfois, la perception vaut plus que la réalité. Donc, de pouvoir de répondre, par exemple, au sentiment d'invasion qui est bien exploité par les Matteo Salvini, Ligue du Nord en Italie, par les Marine Le Pen en France, etc., de répondre. Mais finalement, ce n'est pas une invasion parce qu'on est un demi-milliard d'Européens et les derniers flous ne font que représenter les 0,2% de la population européenne. C'est un argument tout à fait vrai parce que les chiffres sont celles-ci. Mais c'est un argument absolument perdant au niveau politique. Nous devons se battre, nous venons nous battre, pas seulement sur une réalité qu'on doit mieux gouverner et qu'on doit changer. Nous devons nous battre aussi contre une perception qui est à l'origine de la manipulation politique et communicationnelle qu'on fait, notamment les mouvements populistes de différentes sortes. Donc, la question du terrorisme, la question de la sécurité dure, la question de l'immigration, mais aussi la peur des Européens d'un avenir économique qui paraît beaucoup plus sombre pour nos enfants par rapport à celle que nous avons et par rapport à celle que nos parents de la génération est revenue savaient. Donc il y a un sentiment répandu d'insécurité économique.
Et alors par rapport à ces peurs et par rapport à cette situation que vous avez décrite au départ de ce monde effectivement dans lequel le multilatéralisme à l'européenne finalement ne marche pas, quels sont aujourd'hui les 2-3 points sur lesquels il faut avancer?
Il faut construire une Europe qui multiplie les protections, qui multiplie les sécurités et qui multiplie les opportunités. Donc il faut clairement affirmer que la vraie souveraineté, c'est de construire ensemble une Europe qui nous assure véritablement les protections, les sécurités et les opportunités dont nous avons besoin. Que par rapport au défi du terrorisme, au défi de la sécurité, il faut construire une Europe de la défense. Parce que c'est seulement en unissant nos forces, en mieux dépensant, en développant des véritables projets intégrés, en développant une véritable stratégie européenne, qu'on peut finalement faire le travail de prévention par rapport au terrorisme qui est absolument nécessaire. On peut véritablement exister, au moins dans certaines régions du monde, au moins dans la Méditerranée et dans l'Afrique subsaharienne, par exemple, avec une politique de défense plus intégrée exister et assurer nos intérêts et nos valeurs en tant qu'Européens. Donc sans doute, une première réponse aux besoins de sécurité, c'est construire une Europe de la défense. La deuxième réponse aux besoins de sécurité sociale, c'est construire une union sociale européenne. C'est être conséquent et cohérent avec ce que nous avons écrit dans notre traité. Dans notre traité, on a écrit que le progrès économique et social doit être un des grands buts de l'Union européenne, que dans chaque politique, on doit tenir compte du besoin d'assurer l'égalité sociale et d'assurer l'emploi. Est-ce que dans la dernière décennie, les politiques européennes vous ont semblé respectueuses de ces principes? Je ne crois pas. Je crois qu'il est difficile de dire que dans la dernière décennie, et dans les derniers 15 ans, les actions européennes ont mis en tant que priorité les progrès économiques et sociaux et la lutte contre les inégalités sociales. Mais maintenant, il est clair que c'est un besoin vital pour les Européens et l'avenir de l'Union européenne dépend aussi de la capacité, de façon complémentaire, à ce que nous devons faire plus et mieux au niveau national, sans bien sûr penser de remplacer les politiques sociales nationales, mais de façon complémentaire, il y a une dimension européenne dans la lutte contre la pauvreté. Il y a une dimension européenne dans la lutte contre le chômage, notamment des jeunes. Il y a une dimension européenne dans le développement de nouveaux instruments de solidarité sociale, comme une assurance chômage européenne, complémentaire à celle nationale dans des cas de crise imprévue dans un secteur industriel ou dans une région européenne. Donc, il y a la nécessité d'une convergence sociale vers le haut, et pas vers les bas, si nous voulons garder et développer les marchés uniques. Nous voulons construire un marché unique numérique. Nous voulons construire une Europe de l'énergie, une Europe numérique, bien sûr. Nous devons le faire, mais il est impossible d'approfondir et d'élargir, de faire croître les marchés uniques si nous restons avec des écarts dans les droits sociaux et dans les droits des travailleurs des différents pays tellement importants. Et ce n'est pas un hasard que la question des travailleurs détachés s'est imposée, s'est invitée au centre de votre débat présidentiel, et elle est encore au centre de votre débat dans les élections législatives. Il faut aussi une Europe de la croissance. Il faut développer une véritable politique de l'investissement, une stratégie de l'investissement au niveau européen qui passe par de nouveaux instruments d'investissement européens et par une approche au niveau national qui met la croissance et l'investissement avec la consolidation budgétaire au centre de nos priorités. Pour rééquilibrer. Si c'est vrai que les besoins fondamentaux aujourd'hui, c'est bien sûr l'assainissement des comptes publics, mais et surtout, pour ma part, pour ce que je pense, la politique de croissance et la politique de l'investissement. Et finalement, et j'en termine là, il faut une Europe qui multiplie les opportunités. Et ça, c'est une Europe qui doit regarder notamment aux jeunes générations. Et multiplier les opportunités, ça veut dire commencer à développer, prendre acte des histoires de succès de l'Europe. La mobilité, la liberté, Erasmus, les opportunités que l'Europe a offertes de façon importante à trop peu de gens européens, ce sont des histoires de succès. S'il y a un synonyme des succès européens, ce synonyme ce mot-là est Erasmus. Mais est-ce qu'on peut être satisfait du fait que c'est un programme de succès qui a concerné seulement les 2% parmi nous? Est-ce que ça a un sens qu'un programme de succès ou un programme de succès soit dédié à 1% du budget européen qui est 1% du produit intérieur brut européen? C'est ridicule. C'est simplement ridicule. Nous devons faire moins de rhétorique et plus d'action. Nous devons moins parler d'Erasmus et plus en tirer les leçons de ces succès. Donc, multiplions par 10 les ressources dédiées à l'Erasmus. Ça veut dire que dans les derniers 30 ans, au lieu d'avoir 4 millions de jeunes européens qui participent à la mobilité et à la liberté, nous aurons 40 millions.
Merci. Voilà. Je crois que c'est une belle idée que vous lancez pour avancer dans notre débat. Carole Ulmer nous a rejoint. Bonjour Carole. Vous étiez en fait dans la salle depuis le début, mais comme vous aviez un petit temps de retard, vous n'avez pas osé venir tout de suite à la tribune, mais vous avez entendu toute l'intervention de Sandro Gozzi. Alors, Sandro Gozzi doit partir, on a appris ça tout à l'heure, 20h20. Alors, je vais demander à Carole Ulmer et à Stéphane d'avoir peut-être 5 minutes pour réagir à ce qu'a dit Sandro Gozzi et aussi lui poser des questions pour le titiller un petit peu et l'amener un peu plus loin dans sa réflexion. Sandro Gozzi donc devra nous quitter et nous continuerons le débat avec donc François, Stéphane et Carole. Alors Carole, à vous la parole.
Merci et bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour mon arrivée tardive à la tribune, en effet. Merci beaucoup pour votre invitation. Je n'ai pas osé vous couper dans votre élan, cher Sandro, tellement votre intervention était captivante. Donc je me suis cachée au fond. C'est très difficile de passer après vous, parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses avec beaucoup de convictions politiques. Et je pense effectivement que nous sommes dans un moment, dans un vrai carrefour pour l'Europe. Et ce qui va compter énormément, c'est effectivement cette volonté politique de faire des choses concrètes pour les citoyens. Ça sera mon premier commentaire. Il y a quelques mois encore, évidemment, je n'aurais pas tenu ce type de discours. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment européen, véritablement, que nous n'aurions pas osé imaginer il y a quelques semaines encore, notamment en France. Et je pense vraiment que on a déjà entendu des centaines de fois, c'est le sommet de la dernière chance, nous sommes à un carrefour. J'ai cette sensation que ça n'a jamais été aussi vrai, et que là nous avons aussi une chance inespérée de faire aboutir un certain nombre de choses. C'est vrai aussi parce que nous vivons des électrochocs, comme le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, qui poussent aussi les Européens plus encore à s'organiser. J'ai été très frappée par le propos tenu par Angela Merkel il y a quelques jours, qui disait nous devons véritablement prendre notre destin en main. C'est un signal politique extrêmement fort qu'effectivement nous sommes arrivés à un moment où nous allons probablement pouvoir faire des choses. Inutile de dire évidemment que l'élection d'un président pro-européen en France est saluée par toutes les capitales et par tous les dirigeants politiques européens qui n'avaient de cesse que de répéter qu'ils attendaient, qu'ils espéraient une véritable parole française, un rôle français aussi dans cette construction européenne, rôle qui manquait cruellement depuis quelque temps. Donc voilà, nous sommes véritablement à un moment européen et la volonté politique va être tout à fait déterminante. Mais il va falloir également apporter des résultats concrets. Je pense aussi que les citoyens, et ils l'ont manifesté également dans cette campagne, notamment en France, veulent des résultats tangibles. Ils en ont assez des grands discours, ils veulent plus d'Europe, mais ils veulent mieux d'Europe, et des résultats qui se mesurent. Et vous avez souligné, Sandro, un certain nombre de dossiers, et je ne vais pas les reprendre, mais... la question de la sécurité, la question de la défense, effectivement, sont parmi les priorités numéro un pour les citoyens. On le voit dans les eurobaromètres qui mesurent les attentes des citoyens européens. Ils veulent une sécurité européenne, ils veulent une défense européenne. C'est une question de souveraineté nationale et pourtant ils ont conscience que c'est au niveau européen que ça se joue. Et ça, c'est un signal qui est extrêmement important. Je vous rejoins complètement sur la question de la croissance et de l'emploi. Ça a été la promesse faite aux citoyens européens de cette Europe qui devait partager les fruits de la prospérité pour tous. Force est de constater que... elle n'a pas totalement délivré, comme on dit dans le jargon bruxellois atroce, et qu'il y a encore des efforts à faire. Efforts à faire dans une stratégie européenne industrielle. Nous avons intérêt à mettre en commun nos priorités stratégiques. Quels sont les secteurs que nous voulons, nous, Européens, mettre en avant, protéger dans le commerce international? Quels sont les secteurs que nous voulons valoriser dans le commerce international? Nous avons intérêt à mettre en place une véritable politique d'investissement commune. Nous avons un embryon, le plan Juncker, qui investit dans des projets communs d'avenir. Là aussi, mettons-y les moyens nécessaires pour augmenter ce qui marche. Vous avez mentionné Erasmus, l'investissement dans le capital humain. Tout le monde sait que c'est un déterminant fondamental dans le mode de croissance qui nous attend. Or, les chiffres du budget européen sont aujourd'hui peau de chagrin. On a mentionné la révolution numérique, l'énergie, tout ça sont des chantiers sur lesquels, effectivement, c'est à l'échelon européen que beaucoup de choses se jouent. Je voulais mentionner également l'impératif de consolider la zone euro, ce qu'on appelle l'union économique et monétaire. La crise nous a montré que l'on marchait sur une seule jambe, la politique monétaire, et que nous manquions de la deuxième jambe, la politique économique. Nous n'avons pas aujourd'hui de véritable politique économique commune, et il est plus que temps de mettre enfin en place cette politique économique commune. C'est une volonté du président français. La présidente allemande montre également des signaux favorables dans le sens. Une task force franco-allemande a été constituée sur la question de la zone euro. Ma question subsidiaire au passage à Sandro, c'est mais et quid de l'Italie ? Est-ce qu'il ne serait pas très bénéfique que ça ne soit pas justement qu'un axe franco-allemand et qu'il n'y ait pas d'autres pays qui soient également impliqués dans la recherche de ce deal autour de la zone euro ? Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Évidemment, faire des réformes chez nous, mais également construire une véritable union de l'innovation et de l'investissement au niveau européen, on l'a dit. Mettre en place un budget pour la zone euro, c'est un véritable sujet. Budget qui pourrait servir à financer des biens communs européens. Alors derrière ça, on peut y mettre des investissements dans le capital humain, des investissements dans la fibre, dans les énergies renouvelables. Bref, dans des projets qui nous paraissent, à nous, citoyens européens, des projets d'intérêt commun à l'ensemble des pays européens. Puis ça veut dire aussi mettre en place des institutions démocratiques, évidemment, pour contrôler ce budget européen. Un ministre de la zone euro, une chambre dédiée aux affaires de la zone euro au Parlement européen. Je ne rentre pas dans le détail, nous y reviendrons peut-être. Et puis un dernier mot sur la méthode qui me paraît extrêmement importante. Même si nous vivons un moment européen, comme je le disais, il ne faut pas oublier que nos sociétés sont malgré tout fracturées, divisées, angoissées, vous l'avez dit. Il ne faut pas faire fi de toutes ces colères, de toutes ces angoisses, de toutes ces craintes, et faire comme si, c'est bon maintenant, on va faire comme d'habitude, et puis voilà. Parce qu'après, aux prochaines élections, ça risque de mal se passer pour nous. Il manque aujourd'hui un véritable affectio societatis européen. Il y a une véritable crise culturelle, une crise de civilisation, une crise démocratique. Il faut aller véritablement parler aux citoyens, engager le dialogue avec le plus grand nombre. Et c'est pourquoi je crois très très fortement à la nécessité de changer d'approche, de cesser de faire l'Europe top-down, hein, de tout ce qui vient de Bruxelles et qui descend chez nous, mais de créer aussi l'Europe bottom-up, hein, qui vient des territoires, de chez nous, de nos villes, de nos régions, des projets que peuvent construire des citoyens et qui remontent et qui essaiment, pourquoi pas, partout dans l'Europe en diffusant ces bonnes idées. Le président Macron a proposé la mise en place de conventions démocratiques à l'échelon européen, justement pour encourager ce dialogue de société civile sur l'Europe dont on manque cruellement. Cela aurait plusieurs vertus. Certains mythes tenaces sur l'Europe pourraient être dissipés. Je ne rentre pas dans les détails, on les connaît. Ça permettrait de faire remonter donc des bonnes idées. Ça aiderait les citoyens aussi à mesurer que ce qu'ils pensent parfois chez eux n'est pas forcément partagé dans d'autres pays européens. On connaît tellement mal ce qui se passe dans les autres pays européens, chez nos voisins. On n'a aucune idée de la manière dont est perçu le débat public européen en Italie ou en Allemagne. On connaît vraiment très très mal ce qui s'y passe. Donc voilà, moi je crois très fort à la vertu de ces exercices de démocratie. Il n'y a pas forcément besoin d'une formalisation à l'extrême. La question des institutions, pour moi, vient après la nécessité vraiment d'engager, de nourrir ce dialogue. C'est ce que nous essayons de faire modestement au sein de notre think tank Confrontation Europe, parce que nous croyons véritablement que les acteurs de la société civile, c'est-à-dire tout à chacun, a des idées à faire remonter et pour faire avancer cette Europe.
Merci Carole. Stéphane De Vries, cette prise en compte de la vie des citoyens, cette prise en compte de ce que vit et de ce que sent la population, c'est un enjeu aussi pour vous ?
Absolument, mais c'est aux citoyens de s'exprimer et je ne crois pas du tout à un parlement pour la zone euro, je pense que c'est une fausse bonne idée, pour la simple raison que ce parlement existe déjà, il s'appelle le Parlement européen, où à part le Danemark, je ne parle pas de l'Angleterre parce que ça s'est terminé, mais à part le Danemark, tous les États membres sont d'office ou de facto membres de la zone euro. Même les pays qui n'ont pas encore introduit l'euro dans leur système monétaire, ils sont concernés par les décisions et tôt ou tard, ils sont obligés par les traités d'introduire l'euro. Donc tous les pays, à part le Danemark qui a négocié un opt-out, donc le Danemark n'est pas obligé de joindre l'euro, tous les pays utiliseront tôt ou tard l'euro. Donc le Parlement européen peut très bien dire, quand on parle de l'euro, Danemark quittait notre belle chambre. Je crois qu'il n'y a que 7 ou 8 membres du Parlement européen danois. Je ne connais pas exactement le nombre, mais en tout cas, donc ce Parlement existe déjà. Je pense aussi que c'est une réaction très franco-française, peut-être aussi italienne, peut-être même catholique, de vouloir instaurer encore une institution. Parce qu'on a besoin des institutions dans des pays où la démocratie marche peut-être un peu moins bien que dans d'autres pays. Donc c'est aussi un réflexe presque autoritaire. Il faut des institutions pour gérer l'Europe. Moi, j'y crois pas du tout. Il faut des citoyens. Les citoyens, le problème, Carole disait tout à l'heure déjà, on s'intéresse pas du tout à nos voisins. C'est absolument vrai. Moi, je vois ça avec les Pays-Bas et la France, les deux pays que je connais le mieux. Moi, je suis né à 3 heures de Paris, donc dans le sud des Pays-Bas, 3 heures en voiture, donc très proche, à 1 heure de Lille. Donc entre les deux, il y a encore un autre pays qui s'appelle la Belgique. Peut-être vous le connaissez, mais c'est aussi, je crois, aussi bien pour les Pays-Bas que pour la France, le pays étranger le plus inconnu. De toute manière... il n'y a que 85 kilomètres qui séparent les Pays-Bas et la France, et même 0 kilomètre si on prend en compte Saint-Martin. On partage une frontière terrestre depuis 4 siècles. La majorité des Français et les Néerlandais ne se rendent même pas compte de ça. Donc on ne se regarde pas. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Enfin, on partage beaucoup de problèmes et on essaie tous de réinventer la roue dans notre coin, de réinventer les solutions, sans forcément regarder ce qui a été fait peut-être à 100 km de nos capitales, parce que les distances sont très très petites en Europe. Donc ça c'est un vrai problème. Donc il faut créer une conscience, une véritable conscience européenne. Moi je dis toujours, Jean-Christophe l'a dit dans mon introduction, je suis né aux Pays-Bas, mais jamais je dirais je suis néerlandais. Parce que je ne me sens pas néerlandais, je ne me sens pas non plus français, je suis européen. Malheureusement, j'ai un passeport néerlandais, ça n'a pas été mon choix, ça m'a attribué comme ça. Mais je ne voudrais pas ce passeport, je voudrais un passeport européen. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette fibre européenne, parce que contrairement à Sandro, je n'ai pas fait Erasmus. J'ai fait des études à Amsterdam et à Paris, mais c'était des études séparées, donc il n'y avait pas d'Erasmus impliqué. Et aussi, Erasmus, c'est un programme qui a beaucoup de succès, mais comme disait Sandro, il y a en fait très peu de gens qui l'utilisent. Moi, je suis pour un Erasmus obligatoire. Quand on fait des études, non seulement à la fac, mais aussi à des écoles professionnelles, où il y a d'autres pays comme les Pays-Bas, où il y a un système intermédiaire entre l'éducation supérieure et l'éducation secondaire, 6 mois obligatoirement passés dans un autre pays européen. Quand on le fait pas, on aura peut-être aussi le diplôme, mais il y aura peut-être pas une étoile ou quelque chose qui marque en tout cas qu'on n'a pas été dans un autre pays européen. Donc Erasmus obligatoire, mais aussi un Erasmus obligatoire pour tous les hommes politiques et les femmes politiques bien évidemment. Quand on est élu, on a un mandat, on est obligé de passer au moins 3 mois dans un autre pays européen avant de pouvoir remplir ce mandat. C'est aussi un autre problème. Les hommes politiques, à l'exception bien sûr de Sandro, connaissent pas du tout l'Europe. Il y a un véritable problème quant à ça. La politique nationale est toujours plus importante que la politique européenne. Quand il y a des sommets et les chefs de l'État ou les chefs de gouvernement rentrent chez eux, ils disent toujours tout le mal que l'Europe fait. Ou quand il y a un problème, c'est toujours la faute à Bruxelles. Quand il y a un succès, c'est bien évidemment grâce à La Haye, ou à Paris, ou à Rome. C'est jamais grâce à Bruxelles. C'est pour ça que j'appelle le Thalys, c'est le TGV qui lie Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles et Paris, le Alzheimer Express. Parce que les hommes politiques prennent le train à Bruxelles, le Thalys, ils ont été très pro-européens. La majorité des leaders européens, quand ils sont à Bruxelles, ils sont extrêmement pro-européens. Ils participent à des décisions extrêmement pro-européennes. Mais dès qu'ils prennent le Thalys, ils sortent, et ils descendent à Paris ou à Amsterdam, ils ont tout oublié. Donc c'est pour moi la Alzheimer Express. Donc il y a plusieurs problèmes. C'est vraiment pour moi la conscience européenne. Donc il y a très peu d'échanges et on parle d'un budget européen, on parle de la sécurité, la défense. Pour moi, ce sont des sujets qui sont beaucoup moins importants. On parle en fait jamais d'un budget culturel pour l'Europe. On parle de l'exception française où il y a toujours encore le réflexe des États de se protéger contre les autres. La culture, on en parle très peu, mais à mon avis, c'est un instrument primordial pour nous unifier, et aussi bien sûr l'éducation, donc l'apprentissage des langues. Pour vous donner un exemple, bon, j'ai pas suivi de l'éducation secondaire ici en France, heureusement dirais-je, mais j'ai été très surpris à propos du débat des classes bilingues l'année dernière. Je pensais au début qu'il s'agissait des classes bilingues, mais j'avais mal compris. En fait, ce sont des classes où on apprend deux langues. Et là, je suis vraiment tombé de ma chaise, parce que deux langues, c'est rien. C'est le strict minimum, avant 10 ans déjà, de pouvoir parler au moins deux langues. Donc, mais c'est pas pire, c'est pas mieux dans d'autres pays comme l'Italie, que je connais moins bien, ou l'Espagne. C'est un véritable problème aussi, l'apprentissage des langues. Donc il y a plein de sujets qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants que la défense ou la sécurité, parce que ce sont des instruments qui ensuite donnent confiance aux Européens. Et quand on a confiance en soi, on peut commencer à construire vraiment quelque chose. Et donc le reste, la défense, la sécurité, le système social, sont que des détails finalement. Ce qu'il faut vraiment, c'est la confiance en soi. Voilà, donc ça c'est ma première vision.
Merci beaucoup. Merci Carole Hulmers et Stéphane De Vries. C'est vrai qu'on a encore envie de vous entendre avant que vous ne partiez. Peut-être pour réagir à ce que vous avez entendu, ces autres convictions européennes que vous venez d'entendre. Et puis j'aurais aimé peut-être aussi vous poser une question. Finalement, d'une certaine manière, je crois qu'ici on est à peu près tous d'accord sur la nécessité de l'Europe et l'importance de cette Europe. Mais je trouve quand même qu'on peut avoir le sentiment que l'élargissement de l'Europe s'est fait un peu au détriment d'un approfondissement politique toutes ces dernières années. Et que d'une certaine manière, ça a joué un peu l'un contre l'autre. Alors, comment on peut sortir de cela aujourd'hui ? On a bien compris les grands axes dans lesquels vous vouliez faire repartir l'Europe, mais que peut-on faire pour aller finalement dans le sens d'un approfondissement aujourd'hui, alors que nous sommes déjà bien nombreux ? Et finalement, quelle est, selon vous, un peu parmi tout ce qui a été dit, la première mesure, le premier dossier, peut-être le plus urgent, auquel il faudrait s'atteler ?
Oui, alors je commence par la dernière question. Est-ce que l'élargissement a empêché l'Europe de se renforcer? Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Parce que les problèmes, le début de la crise politique n'est pas venu en Europe à cause des décisions ou d'attitudes des nouveaux pays de l'Europe centrale et orientale. La première crise en Europe est venue de la décision légitime, là aussi, là encore, des deux pays fondateurs. Et les deux pays fondateurs sont bien représentés ce soir, même si Stéphane préfère être européen que néerlandais, moi je préfère être italien et européen, ou européen-italien, mais c'était les rejets du traité constitutionnel aux Pays-Bas et en France, les débuts de la crise fondamentale de l'Union européenne. Ce n'est pas les Polonais qui ont rejeté l'adhésion ou par référendum dans les Pays-Baltes, ce sont les Français et les Néerlandais qui ont provoqué de façon légitime, une véritable crise et un coup d'arrêt au processus de renforcement de la conscience collective européenne. Parce que on peut dire que dans les traités de Lisbonne, il y a pas mal de questions qui étaient comprises dans les traités constitutionnels. Mais on a arrêté une dynamique politique. Et on a éliminé les symboles, ce qu'on dit beaucoup sur les choix politiques. Donc, est-ce que l'élargissement est véritablement... Est-ce que c'est l'élargissement qui a empêché l'approfondissement? Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe élargie a pas mal de problèmes qui viennent aussi, aujourd'hui, des pays de l'Europe centrale orientale? Oui. Mais il faut savoir que si on n'avait pas offert une voie démocratique et une voie un chemin vers l'économie des marchés aux pays qui étaient, et ce n'était pas leur faute, du mauvais côté du mur, les problèmes seraient venus sur nous de façon différente. Parce que finalement, nous avons projeté stabilité, paix, prospérité dans l'autre partie du continent. Et les voisins, on ne les choisit pas. Mais il faut faire avec. Et si on les avait fait rester de l'autre côté du mur, les problèmes des nationalistes, des terroristes, d'insécurité, ils seraient revenus sur nous. Et la prospérité et le développement des pays de l'Europe centrale orientale a été très bénéfique pour les Français, pour les Italiens, pour les Allemands, du point de vue économique, du point de vue de l'entreprise. Donc il faut voir, mais la question c'est, est-ce que, tout d'abord, est-ce qu'il y avait une autre voie? Deuxième, est-ce qu'on a bien géré tout ça? Il y a une autre voie, on l'avait proposé, mais finalement, il y avait une proposition, et c'était Mitterrand qui avait fait cette proposition, mais la décision finalement des Européens n'a pas été de construire une confédération européenne avec les pays qui sortaient du communisme, autour de la communauté économique européenne. C'est nous qui nous avons choisi d'aller vers l'élargissement. Est-ce qu'on l'a géré? Il y a des histoires de succès de l'élargissement. Et il y a aujourd'hui des problèmes fondamentaux politiques. Et pour moi, l'identité, sans doute culture et musique pour mes oreilles, c'est ce que Stéphane de Vries vient de dire. Parce que nous, en Italie, On développe une politique et on propose une politique européenne qui, je résume, avec comme ça. Si on dépense 1 euro pour la sécurité, on doit dépenser 1 euro pour la culture. Parce que la véritable prévention et la véritable bataille contre la violence et les terroristes, ça passe par la culture. Donc je suis tout à fait d'accord, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais est-ce que l'autre question, l'identité européenne, pour moi, c'est état de droit et droits fondamentaux. Et aujourd'hui, l'état de droit et les droits fondamentaux sont remis en question à l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons un problème avec la Hongrie qui veut fermer une université. Nous avons des problèmes avec la Pologne qui, ce n'est pas mes mots, mais selon la Commission européenne, est en train de remettre en question un pilier fondamental de l'état de droit qui est l'autonomie, l'indépendance des juges de la Cour constitutionnelle. Ce sont des risques, ce sont des questions ouvertes. Et ce sont les questions que nous devons avoir le courage et la volonté politique d'aborder. Parce que si nous laissons passer ces questions-là, nous avons perdu en avance la bataille. La relance de l'Europe passe par la relance des valeurs fondamentales européennes. On ne peut pas avoir des institutions européennes tatillonnes avec les 0,2% des budgets et absentes du moment où, dans des États membres, on met en risque les valeurs fondamentales de l'état de droit. Aujourd'hui, ce sont ça les questions que nous devons aborder. Mais nous devons les aborder, d'après moi, en nous attaquant aux sources du succès des mouvements nationalistes. Et d'après moi, la peur, l'insécurité pour son propre maison, pour sa propre famille, pour son propre travail, pour son propre avenir, ce sont la meilleure alliée de ces questions. C'est pour cela que j'insiste sur l'Europe sociale, j'insiste sur l'Europe de la sécurité, j'insiste sur l'Europe de la croissance, parce que c'est la seule façon de pouvoir aller et attaquer les racines du mal. C'est d'après moi les totalitarismes, l'autoritarisme, c'est les mal européens. Et après tout, nous devons, et j'en termine là, et je suis désolé, mais je dois, sinon j'ai raté mon avion, mais il faut nous rappeler toujours, et rappeler notamment à notre jeunesse, et combien c'est important l'Europe des valeurs fondamentales et de la droite. Parce qu'en peu plus de 40 ans, on est passé de la génération Auschwitz à la génération Erasmus. C'est nous les Européens. Moi, j'ai pu écrire un livre, Génération Erasmus, qui est un peu un cahier intime de mon expérience quand j'étais à Paris, un mois après la chute du mur de Berlin. Au 49 boulevard Voltaire, 50 boulevard Voltaire, c'était le Bataclan. J'habitais en face. Et il y a une autre jeune fille à laquelle je ne vois pas du tout mes rapportés, ne fût-ce que pour succès éditorial, qu'elle aussi, elle a dû voyager en Europe. Elle a pris un train comme moi pour bouger de son pays à un autre pays européen. Elle a écrit un cahier intime. Elle a subi les effets et les conséquences des actes européens. Cette fille s'appelait Anna Frank. C'est ça l'Europe de laquelle on est parti. Ce sont ça les raisons pour lesquelles nous avons fait l'Europe. Et c'est pour cela que nous devons redémarrer des valeurs fondamentales. L'Europe est née sous le centre d'Auschwitz. Elle doit tout d'abord se relancer en se battant pour l'état de droit et les valeurs fondamentales. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, de votre attention. Au revoir.
Voilà, le débat continue et nous allons prendre des questions venant de la salle. Peut-être, Carole Ulmer, quand vous parliez tout à l'heure d'apporter du concret, je dirais que pour vous, là, pour vous qui travaillez sur les enjeux économiques notamment, c'est quoi l'urgence aujourd'hui pour répondre aux attentes des Européens, peut-être aux attentes des jeunes en France et dans d'autres pays européens aujourd'hui?
C'est une question très difficile. La première réponse, c'est aux Européens, aux citoyens eux-mêmes de le dire et de le manifester. On attend trop souvent que la réponse vienne d'en haut et je pense que c'est l'erreur. Il faut aussi laisser s'exprimer les gens sur réellement quelles sont leurs attentes concrètes. Si malgré tout, je m'essaye à une réponse, je pense vraiment que les réponses numéro un tournent autour des questions d'emploi. Et notamment d'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a énormément à faire pour développer le programme Erasmus, pas uniquement en volume, mais aussi pour donner accès à ce type de programme à un ensemble plus large d'élèves, que ça ne soit pas uniquement restreint à des élèves d'études supérieures, universités, etc., mais qu'on fasse aussi ce type de programme pour des jeunes apprentis, par exemple, pour tout cursus scolaire, finalement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une discrimination entre un jeune apprenti et puis un jeune universitaire. Donc, ce n'est pas uniquement une question de volume, mais c'est aussi une question d'ouverture à différentes filières. Permettre l'expérience de l'altérité, permettre l'expérience dans un autre pays européen pour un jeune européen aujourd'hui, je pense vraiment que c'est une des priorités. Et c'est pas si difficile que ça, puisqu'on a déjà une base de programmes qui existe, qui est certes assez restreint, mais on a déjà un embryon de quelque chose qu'on peut étoffer, améliorer, élargir sur un ensemble d'autres projets. Donc je pense que c'est faisable. C'est très important aussi de ne pas promettre la Lune aux citoyens, parce qu'on leur a tellement promis la Lune depuis des années, qu'il faut aussi être mesuré dans ce que l'Europe peut faire. L'Europe ne peut pas tout faire non plus. Donc voilà, il faut aussi être raisonnable. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une autre idée serait vraiment de remettre au goût du jour cette vieille idée de politique industrielle européenne. On voit bien que dans le discours des gens qui attisent la peur, sont utilisées les images de fermeture d'entreprise, de désert industriel, vous allez perdre votre emploi parce que l'entreprise va être délocalisée en Pologne, et hop, un petit coup sur l'Europe et le mal, bouc émissaire, etc. Dans un certain sens, il faut aussi que l'Europe puisse jouer un rôle dans cette politique industrielle, et donc qu'elle ait des outils aussi pour défendre ces entreprises. Je pense qu'il y a eu une forme de naïveté, de croire que le libéralisme économique allait naturellement redistribuer les fruits de la croissance à tout le monde. On se rend compte que finalement, c'est pas si simple que ça, qu'il y a aussi eu des perdants dans cette mondialisation, des perdants dans certaines classes sociales, mais aussi dans certains territoires qui ont été objectivement délaissés par des entreprises, etc. Donc là, je pense qu'il y a aussi des actions à mener, en termes d'investissement, très concrètement, en termes de se doter aussi d'instruments de défense commerciaux face à des puissances étrangères que je ne nommerai pas, qui elles, se dotent de ces outils sans scrupules, j'allais dire. Donc ne soyons pas naïfs non plus par rapport à ça, et puis dotons-nous aussi de ce type d'outils très concrets.
Stéphane De Vries, les Pays-Bas sont un pays qui est extrêmement ouvert sur le monde. Est-ce que cette idée d'une Europe qui protège, une Europe qui met un peu des barrières, est-ce que ça vous paraît possible?
Tout dépend de la définition de protection. Parce qu'on parle souvent du modèle social français, il faut le protéger, c'est vraiment sacro-saint. Mais quand je regarde le modèle français, je le trouve pas du tout impressionnant, voire très, en restant poli. Ça m'impressionne pas du tout. Quand on regarde le modèle social néerlandais, je parle des Pays-Bas parce que bon, j'ai vécu longtemps là-bas, donc c'est pas pour promouvoir les Pays-Bas parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas du tout. C'est pour ça que j'habite ici et pas là-bas. Mais je trouve ça quand même intéressant de comparer les deux pays parce qu'ils sont extrêmement proches et parce qu'ils sont assez comparables sur pas mal d'aspects. Il y a aussi beaucoup de différences, mais le modèle social néerlandais est beaucoup, beaucoup plus performant que le modèle social français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aux Pays-Bas, on a compris que pour avoir un modèle social performant, et je parle par exemple de la protection en cas de licenciement, la retraite, le chômage, enfin plein de choses dont les Français sont très très attachés. C'est beaucoup plus performant qu'ici. Et pourquoi ça marche mieux? Déjà, je pense la première raison plus importante, c'est qu'il y a une culture de consensus. Donc en fait, il y a une vraie conscience qu'on vit ensemble et qu'on a donc une responsabilité partagée, mutualisée, si vous voulez. C'est une conscience que j'ai rarement vue en France. En France, les citoyens n'ont pas envie de construire une société ensemble. C'est peut-être un peu dur, mais c'est vraiment comment moi j'observe la société française. Mais là, peut-être la raison la plus importante pour un modèle social plus performant qu'ici, c'est qu'aux Pays-Bas, les gens ont compris que pour avoir un modèle social performant, il faut gagner de l'argent, il faut avoir du budget. Comment on gagne de l'argent ? Pas avec une politique étatiste ou un marché géré par l'État, comme c'est toujours très largement le cas ici en France, mais en rendant, en acceptant le marché, le libre marché. Et les Néerlandais ont même inventé le capitalisme moderne et le marché libre, le multinationalisme. La première grande entreprise multinationale était la Compagnie des Indes. La bourse a été inventée à Amsterdam. C'était une bourse pour les citoyens. Donc les citoyens, à la fin du 16e, début du 17e, investissaient dans les entreprises, sur un marché, et c'était extrêmement rentable. Tandis qu'à cette époque-là, la France n'avait même pas de banque. Les finances de l'État étaient les finances personnelles du roi. Donc on a très rapidement compris qu'il faut, bien sûr c'est aussi un pays beaucoup plus petit, qu'il n'y a pas les ressources naturelles de la France, donc les Néerlandais étaient obligés de regarder ailleurs. Mais de cet esprit existe toujours. Pour les Néerlandais, le marché est une opportunité. Peut-être vous êtes au courant qu'il y a eu des élections il y a quelques mois. Aujourd'hui, presque 100 jours après l'élection, il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. Actuellement, les débats ou les négociations se poursuivent entre quatre partis, dont les Verts. Et les Verts aux Pays-Bas, c'est un parti libéral. Aux Pays-Bas, tout le monde est libéral, au sens comme l'entendent les Français. Acceptant le marché, le libre marché comme une opportunité et pas comme une menace. Il y a une étude il y a quelques mois qui mettait les Pays-Bas comme le pays le plus mondialisé du monde, avant la Suisse et le Singapour, je crois. Donc aux Pays-Bas, le concept de la mondialisation, la menace de la mondialisation n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perdants. Parce que bien qu'il n'y a pas de chômage, enfin très peu de chômage, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'ici, un tiers plus élevé, et les gens travaillent le moins au monde. Ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est le pays où on travaille le moins au monde. 29 heures par semaine, c'est la durée hebdomadaire moyenne, pour un salaire un tiers plus élevé qu'en France. C'est aussi probablement pour ça que c'est le pays le plus heureux au monde. Donc, quand je regarde Emmanuel Macron et surtout les critiques qui lui sont faites, c'est-à-dire ultra-libéral, il veut que l'économie de marché, il va détruire notre modèle social. J'ai envie de dire, regardez les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, je pense que c'est à peu près le modèle que Emmanuel Macron a en tête. Et donc un pays où les salaires sont un tiers plus élevés, où il n'y a presque pas de chômage, où les gens travaillent presque pas, si ça c'est un modèle ultra-libéral, je pense qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de Néerlandais qui ont peur, parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup, Sandro Gozzi disait tout à l'heure aussi, il y a une perception, aux Pays-Bas on ne parle pas d'une une vague d'immigration, mais carrément d'une tsunami d'immigrés. Or, les Pays-Bas, comme la France, est l'un des pays qui a le moins d'immigrés de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la France n'a très très peu d'immigrés, en dessous de la moyenne européenne. Donc, en fait, la peur pour l'immigré est vraiment une peur construite et complètement irréelle ou même surréaliste, si vous voulez. Et ce groupe-là, c'est notamment le groupe qui a bien évidemment voté pour un parti populiste, le PVV, de Geert Wilders. Peut-être vous le connaissez, le leader de l'extrême droite. Enfin, l'extrême droite, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas quel terme employer, mais on peut parler de populiste ou national-populiste. En tout cas, vous comprenez dans quel coin je le situe. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous ces leaders populistes partagent, à mon avis, le même coiffeur, parce qu'ils sont tous blondes, peroxydées, y compris Marine Le Pen, mais ça c'est à côté. Donc il y a cette peur, mais en même temps, avec la dernière élection, on a surtout la presse étrangère, il y avait énormément de journalistes étrangers aux Pays-Bas pour couvrir l'élection. Aux Pays-Bas, d'habitude une élection aux Pays-Bas c'est aussi intéressant que regarder un mur qui vient d'être peint et regarder asséché. Mais tous les journalistes, parce que j'ai eu pas mal de journalistes de mes confrères étrangers au téléphone qui voulaient plus d'informations, ils voulaient l'histoire de Geert Wilders, parce que ça c'était vraiment si les Pays-Bas tombaient, c'était le début ou la fin de l'Europe, avec le domino électoral qu'on a cette année exceptionnelle. Et à chaque fois je disais, mais en fait c'est ça, c'est pas l'histoire, il faut regarder le succès. Il y a un énorme consensus, il y a une grande égalité, il y a une très bonne répartition des richesses, les gens sont très heureux. Et il faut aussi regarder l'énorme succès des partis extrêmement pro-européens, notamment les Verts et le D66. D66, c'est un parti comparable un peu à Emmanuel Macron, mais ça, ce sont les deux partis qui ont gagné. Et c'était clair dans les sondages depuis des mois déjà. Et donc, à chaque fois quand je disais ça, il faut donc peut-être parler du succès et pas de la montée du populisme, le journaliste me disait... Ah oui, c'est très intéressant. Mais raconte-moi sur Wilders. Et donc, en fait, il y a une obsession pour la montée du populisme, y compris aussi en France, parce que beaucoup de journalistes étrangers qui ont couvert l'élection présidentielle étaient uniquement intéressés par Marine Le Pen. Mais ce n'est pas la vraie histoire. Donc, moi, journaliste, j'essaie de changer un peu, même mon métier, enfin mon domaine, les médias, je pense qu'ils ont, eux aussi, ont une grande responsabilité d'ouvrir les yeux et de faire rencontrer nos voisins. Voilà.
Merci Stéphane De Vries. Je crois qu'on va regarder d'un œil un petit peu différent la situation aux Pays-Bas suite à votre propos ce soir. Alors on va donner la parole à la salle sur les questions européennes.
Voilà, le micro, comme à l'habitude, va démarrer, va tourner. Levez bien la main. Voilà. Et puis on reviendra après devant et puis derrière, au fond. Parlez bien fort dans le micro, si c'est possible. C'est pas un micro hollandais, ça. Hein. Non, j'aurais pas dû relancer.
Bonsoir, merci beaucoup de ces exposés. Je vais être brève. J'ai entendu plusieurs fois la formule « on va investir dans le capital humain ». Est-ce qu'il y a des gens ici que ça a choqué? Est-ce qu'ils veulent lever la main? Est-ce que ça a choqué quelqu'un, l'expression « investir dans le capital humain » Parce que moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Puisque Stéphane parlait de l'apprentissage des langues, j'appelle ça la langue du nihilisme. La langue du nihilisme. Parce que, par exemple, en Europe, toutes les 48 heures, un agriculteur se suicide. Est-ce que c'est les pertes et profits du capital humain? Il y a, mes chiffres ne sont pas actualisés, mais plus de 40 millions de chômeurs et encore plus de gens en Europe qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est ça la prospérité?
Bien, voilà. Merci. Je crois qu'on a bien entendu le point que vous vouliez soulever. On va prendre une deuxième question devant. Voilà. Jérôme Vignon.
Alors ma question c'est aussi sur l'humain, mais au sens où Carole Hulmer et Stéphane De Vries l'ont évoqué, en nommant les citoyens comme devant prioritairement participer à une Europe qui sont construites par en bas et que c'est plus important que les institutions. Tous les deux, vous l'avez dit comme ça. Alors, ma question, croyez-vous que les territoires, les villes, les régions, les coopérations transfrontalières sur lesquelles on a beaucoup misé dans les années 80 et dont on parle peu maintenant, soient un véhicule pour cette Europe qui se construirait par en bas?
Merci. Puis on va prendre une troisième question tout en haut, qui a été la première personne à lever la main, tout en haut, au milieu. Voilà. Et puis, il y aura la question de Bordeaux. D'accord, mais on va la prendre tout à l'heure.
Merci. Comme l'a rappelé le père Boedek en introduction, les semaines sociales préparent leur session de novembre. Quelle Europe voulons-nous? Et si nous sommes d'accord, en préparant cette session, sur tout ce qui a pu être dit ce soir sur la nécessité d'Europe, nous butons plus sur la possibilité d'Europe. Et le gros mot de fédéralisme, qui a été utilisé tout à fait au début par Sandro Gozzi et par vous, je crois, monsieur De Vries, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu dessus. Est-ce qu'utiliser le mot fédéralisme aujourd'hui, c'est de la simple provocation, ou est-ce que ça vous semble toujours une vision à porter et un chemin qu'il vous semble utile de montrer pour avancer dans la possibilité d'Europe?
Voilà, merci. Je crois qu'il y a trois questions qui sont des questions importantes. La question investir dans le capital humain, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette construction européenne? Le rôle des territoires, des régions, de tous ces lieux transfrontaliers. Et puis la question du fédéralisme. Je ne sais pas qui veut commencer à se lancer dans une réponse. Carole?
Oui. Alors première question sur le capital humain. Je suis navrée que les termes vous choquent, mais le propos n'était pas de choquer. L'idée derrière ce concept qui n'est pas le mien, mais qui n'est qu'un concept des institutions européennes elles-mêmes. Nous avons un plan d'investissement au niveau européen qui s'appelle le plan Juncker, grâce auquel les États membres peuvent bénéficier de subsides pour investir dans ce qu'on appelle des projets de long terme, des projets d'avenir. dans ces projets d'avenir, on peut investir dans la transformation énergétique de nos territoires, donc les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments pour qu'ils soient plus économes en énergie. On peut investir dans des infrastructures de transport, on peut investir dans la fibre numérique pour doter nos économies de nouvelles technologies. Bref, on peut investir dans tout un tas de choses, mais qui sont des choses matérielles, j'ai envie de dire. Un des regrets que de nombreuses structures, associations ont évoqué à ce sujet, c'est pourquoi ne peut-on pas également utiliser ce plan Juncker, cet argent public européen, pour financer de la formation professionnelle, pour financer de l'éducation, pour financer des services qui vont directement vers l'humain. Et donc pas uniquement construire des murs, des routes, des tunnels, de la fibre, bref, vous m'avez compris, mais également investir dans ce qu'on appelle en économie, je suis désolée, le capital humain. Alors le mot peut être choquant, mais ça veut dire ça derrière, ça veut dire investir dans de la formation. Voilà, quand un salarié perd son emploi, a du mal à retrouver un autre emploi, pourquoi ne peut-on pas utiliser de l'argent européen pour financer une formation professionnelle qui l'emmènerait vers un nouvel emploi, sécuriser les parcours professionnels des citoyens européens? Pourquoi ça, ce n'est pas considéré comme un projet d'avenir européen? Pourquoi ce n'est pas considéré comme un plan? Pourquoi ça ne peut pas rentrer comme un investissement de long terme sur lequel nous tous Européens nous serions d'accord pour financer? Voilà ce que ça veut dire investir dans le capital humain dans le jargon bruxellois. Évidemment, les mots sont très importants. Peut-être que d'ailleurs on ne devrait pas utiliser ces mots-là, mais le concept derrière reste pour moi une conviction. On devrait pouvoir utiliser aussi cet argent européen pour investir dans de la formation, dans de l'éducation, et pas uniquement dans des murs, dans des routes ou dans des tunnels. Parce qu'on l'a dit beaucoup ce soir, l'éducation, la manière dont on apprend les langues, c'est par là quand même, que c'est là que bat le cœur de l'Europe. Et je pense que pour toucher aux citoyens, il faut passer par ces politiques. Et c'est un vrai combat politique, parce qu'on a du mal, à faire passer ces idées-là à Bruxelles aussi. La question de Jérôme Vignon est extrêmement importante, et merci de la poser. Oui, bien sûr que les territoires, les villes, les régions ont un rôle essentiel à jouer pour aider les citoyens à se réapproprier ce besoin d'Europe. Il y a des expériences extrêmement intéressantes dans les territoires, dans des communes, de pratiques de démocratie participative de toutes sortes, dans tous les territoires de l'Union européenne. J'ai entendu parler de cette expérience à Göteborg, où ils ont mis en place une plateforme de consultation citoyenne pour déterminer où allaient être construites les 3 prochaines crèches de la ville. Et les citoyens se sont manifestés, ont participé avec des éléments très objectifs, hein, de répartition de la population, des enfants dans la ville, et ils ont abouti à un consensus pour déterminer que voilà, c'était là, là et là qu'il fallait construire les 3 crèches. Ce sont des expériences de démocratie participative qui ont lieu dans les territoires. Alors, j'en cite une, mais enfin il y en a partout, qu'on ne connaît pas. Ce partage d'expériences qui vient aussi d'autres pays européens et pas toujours de chez nous, nous aiderait à avoir de nouvelles idées, à partager de nouvelles expériences. Et c'est vrai que malheureusement, peut-être ne donne-t-on pas suffisamment d'importance dans le dispositif aussi institutionnel européen aux régions, aux villes, aux territoires, et qu'on devrait le faire beaucoup plus. Le comité des régions à Bruxelles est une institution et elle essaie de faire entendre plus la voix des régions, et on aurait besoin de revenir effectivement de les entendre plus. Même chose sur les projets transfrontières qui effectivement ont eu un temps un peu plus pignon sur rue. Aujourd'hui, on en entend très peu parler, c'est très compliqué, ça met du temps à se mettre en place, y compris dans des projets d'investissement. C'est regrettable, parce que là aussi, c'est une manière de tisser des liens. Sur la question du fédéralisme, c'est très délicat. Comme je le disais en introduction, peut-être y a-t-il effectivement On a longtemps porté cette question du fédéralisme en étendard et puis peut-être cela a-t-il crispé une partie de l'opinion publique. Et c'est pour ça que je disais que, à mon sens, les institutions finalement viennent après. Je pense qu'on doit vraiment repartir du que veut-on faire ensemble d'un point de vue citoyen, sur des projets concrets. Et les institutions viendront après. Et on trouvera la manière de bricoler ce qu'il faudra faire d'un point de vue institutionnel pour faire, parce qu'on est champion pour faire ça, il n'y a pas de problème. Ma lecture de ça, c'est voilà, peut-être faudrait-il revenir quand même avant toute chose aux citoyens avant de se projeter sur des questions plus institutionnelles. Mais c'est un point de vue personnel.
Merci Stéphane De Vries.
Oui, pour répondre à la première dame, je pense que le mot capital humain, c'est peut-être un pléonasme. On devrait tout simplement parler de l'humain. Et capital, par définition, est l'humain. Peut-être malheureusement, on a trop financialisé l'économie qui a nous amené à la crise de 2008. On n'a rien appris de cette crise parce qu'on est toujours aussi têtu. Mais ça a amené aussi à une malentendu ou même une complètement incompréhension du citoyen sur le fonctionnement du marché. Parce que si les grandes banques sont sauvées, mais pas moi, il est où l'État ou pourquoi ça marche comme ça? Je pense que ça a vraiment contribué à la crise européenne, beaucoup plus que un questionnement sur les institutions. Donc peut-être à partir de maintenant, on devrait parler de l'humain et plus de capital humain, si ça peut choquer. Moi, ça me choque absolument pas, parce que je sais exactement ce qu'on veut dire avec ce terme. Mais il est clair, il est évident qu'il y a beaucoup de jargon à Bruxelles, qui a très peu de lien avec la réalité dans la rue, même dans les rues de Bruxelles même. En ce qui concerne le fédéralisme et les régions, je pense que les deux sont liés. J'utilise le mot pas du tout pour provoquer ou choquer. Normalement, j'aime beaucoup faire ça. Donc, exceptionnellement, je suis fédéraliste vraiment par conviction. Et je le suis vraiment depuis que je peux réfléchir ou depuis que je réfléchis à la question européenne. Donc, c'est vraiment très longtemps. Pour un Français, le mot fédéralisme ou la fédération est très mal perçu. Tout simplement parce que la France est un pays extrêmement centralisé avec un seul chef et donc avec un grand, à mon avis, un grand déficit démocratique. Mais dans un pays comme l'Italie, d'où vient Sandro, ou en Allemagne, ou en Belgique, ce sont des fédérations. Donc là-bas, le mot ne choque pas du tout et c'est même perçu comme une vraie solution, un modèle qui fonctionne bien. Je disais, c'est lié aux régions et aux territoires. En tout cas, à mon avis. Pourquoi ? Parce que je suis non seulement fédéraliste, je suis même post-nationaliste. Je pense que l'un des pires cancers de notre époque moderne, ce sont les États-nations. Donc, quand on peut se débarrasser au plus vite, mieux sera. Pourquoi les régions ? Moi, je pense que les régions sont extrêmement intéressantes comme niveau administratif. Moi, j'ai une théorie que j'appelle la théorie des clubs de foot. Je ne sais pas si vous aimez le foot, moi j'aime bien. Mais en Europe, il y a à peu près 250 régions. Toutes ces régions ont à peu près la même taille. Il y a des régions qui ont beaucoup plus d'habitants, comme par exemple l'île de France, où il y a presque 12 millions d'habitants. Mais en général, on peut parler de régions entre 2 et 4 millions d'habitants dans une région. Dans ces régions, il y a souvent un club de foot, connu ou pas connu, avec les gens s'identifient vraiment, passionnément. Mais si vous allez 40 ou 50 kilomètres plus loin, dans une autre région, les gens s'identifient à un autre club de foot. Et parfois, je crois que c'est George Orwell qui a dit que le foot est la guerre, mais sans les armes. Il y a des guerres, bien sûr, sur les champs de foot, mais on a déjà appris qu'on va vraiment pas vraiment faire la guerre. Il y a même très peu de hooliganisme, ça n'existe vraiment plus. Il y a des clubs qui sont plus grands que leur région, par exemple FC Barcelona ou Manchester City ou Paris Saint-Qatar, je l'appelle toujours. A beaucoup de fans aussi dans d'autres régions. Mais je pense qu'une région, donc le bassin d'un club de foot, donc disons entre 2 et 4 millions d'habitants, c'est une région où les gens s'identifient encore au pouvoir. Donc on peut encore aborder un homme ou femme politique de cette région, on peut proposer des sujets, on comprend, on s'identifie avec ses voisins, et pourtant on n'a jamais envie d'envahir la région d'à côté. Donc je pense que la région, ou un territoire, ou comme vous voulez l'appeler, c'est vraiment la couche administrative qui fonctionne le mieux. Donc si on enlève la nation, et on laisse tout ce qui est les sujets régaliens, encore un terme qui m'énerve beaucoup, parce que le roi n'existe plus en France, mais pourtant tous les présidents aiment bien utiliser ce terme régalien, comme s'ils étaient encore des rois. C'est par ailleurs le seul pays où on emploie ce terme. Mais disons tous les sujets transnationaux, donc la défense, la sécurité, peut-être aussi le modèle social, peut-être aussi l'échange éducatif, ou l'échange des étudiants, ça pourrait très bien être géré par Bruxelles. Ou Strasbourg, si vous voulez, ou Luxembourg. Mais en tout cas, donc moi je suis pour une Europe forte, je suis pour enlever les États-nations et je suis pour renforcer les régions. Je pense qu'à mon avis, et un jour j'écrirai un livre sur la théorie du club de foot, ça serait la réponse à tous les problèmes, enfin en tout cas à beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, mais pour des Français qui sont par définition nationalistes au sens attachés à la nation. C'est peut-être un modèle un peu trop compliqué, mais je pense que d'ici une, deux générations, ça ira.
Merci de nous ouvrir ces lointains horizons. Alors, il y a une question qui nous arrive de Bordeaux. Peut-être qu'on pourra prendre une ou deux dernières questions de la salle. Oui. L'objectif étant de finir à 21h.
Bordeaux avait plusieurs questions, mais bon, je vais retenir celle de la crise grecque. Ne marque-t-elle pas l'échec ou la fin de l'Europe, et ne faudrait-il pas refonder une Europe fédérale à 6 pays?
D'accord, donc il y a effectivement 2 questions. Est-ce qu'il y a une dernière question qui vient de la salle, monsieur? Voilà, ce sera la dernière.
Oui, je voudrais poser une question sur le plan fiscal, et je pense notamment à l'impôt sur les sociétés. On sait que le taux de cet impôt varie énormément d'un pays à l'autre au sein de l'Union. Certains pays sont bien connus, l'Irlande, mais ce n'est pas le seul. Je voudrais savoir si actuellement il y a des perspectives pour améliorer ce type de problème. Merci.
Merci. Alors Stéphane, on va commencer par vous. Donc peut-être avec des réponses assez courtes pour qu'on puisse finir dans les temps. Donc une question sur la crise grecque. Est-ce que l'Europe a échoué en quelque sorte avec la Grèce? Une question sur le retour à l'Europe à 6. Et cette question donc sur l'impôt sur les sociétés.
Oui. D'abord, sur une fédération à 6 pays, je pense que l'Europe à plusieurs vitesses existe déjà par définition. La vraie Europe, la collaboration européenne, a commencé en 1944 avec le Benelux, qui était le précurseur de la communauté économique. Donc, dès le début, il y a eu plusieurs vitesses. Il y a certains pays qui ont l'euro, d'autres non, il y a certains pays qui sont dans Frontex ou dans Schengen, d'autres non. Donc il y a plusieurs niveaux européens déjà. Par ailleurs, dans le traité de Lisbonne, c'est déjà prévu que s'il y a des pays qui veulent s'intégrer plus, c'est tout à fait possible. On voit ça par exemple avec le bureau des octrois, qui n'est pas... c'est un bureau européen, mais pas tous les membres européens sont membres de ce bureau des octrois, parce qu'ils y croient pas ou ils pensent que leur système est beaucoup plus performant. Mais ce que l'on voit, c'est que maintenant, je crois qu'il y a 19 membres de ce bureau, et donc les 6 autres, ils veulent pas rester... finalement, ils seront obligés aussi de rejoindre. Donc l'Europe à plusieurs vitesses existe déjà, et pourquoi pas une fédération à 6, vous dites pays, mais moi j'ai dit dès qu'il y a une fédération, pour moi, il n'y aura plus de pays. Donc si ces 6 pays sont d'accord pour se supprimer eux-mêmes, très bonne idée. En ce qui concerne la Grèce, c'est un échec dès le début, en fait. Et la responsabilité pose sur les épaules, d'abord sur Giscard d'Estaing, parce que c'est lui qui voulait absolument à tout prix intégrer la Grèce dans l'Union européenne, et ensuite à tous les autres membres de l'Union européenne, parce qu'ils savaient, avant que la Grèce ne rejoigne la zone euro, que la Grèce trichait les chiffres de la Grèce n'étaient pas du tout crédibles, les leaders étaient au courant, et pourtant ils ont dit venez chez nous, parce que c'est du marketing. Encore un membre, à l'époque on voulait vraiment vendre l'euro, et donc encore un autre membre, c'était bien vu. Donc ça, c'est aussi la responsabilité de tous les États membres. Ça était une erreur dès le début d'admettre la Grèce dans la zone euro. Ensuite, la gestion est toujours catastrophique. Mais là, on voit, pour moi, la dernière guerre des religions en Europe. C'est vraiment une confrontation entre les catholiques et les protestants. Les protestants, ils sont beaucoup, paradoxalement, plus attachés à l'argent, mais beaucoup plus détachés. Donc ça ne devient jamais un sujet d'émotion. Eux, ils considèrent donc l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, la Finlande, que eux, ils respectent les règles, et ils ne comprennent pas pourquoi un pays qui n'a jamais respecté les règles devrait être aidé. Les pays du Sud, parmi lesquels je compte aussi pour la facilité la France, ont toujours été beaucoup plus cléments avec la Grèce, parce que eux non plus ont respecté les règles. Et il y a une autre vision de qu'est-ce que c'est l'argent. Donc là, c'est un vrai débat qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce que la semaine dernière, il était question que l'Eurogroupe se mettait d'accord sur la fin ou au moins un décote de la dette. Ils n'ont pas trouvé une solution, en tout cas pour maintenant, parce que c'est un vrai conflit de vision de l'économie. Ils savent tous qu'il faut donner quelque chose à la Grèce, sinon c'est pas tenable. Mais il y a un vrai conflit de culture, et ça c'est très intéressant. Ensuite, sur les paradis fiscaux et l'économie, en fait il y a beaucoup de taux d'imposition différents au sein de l'Union, parce qu'il y a beaucoup de compétition ou de concurrence fiscale. Il y a très peu de pays, peut-être aucun, qui veut mettre fin à cette concurrence fiscale, parce que, encore une fois, c'est un sujet de souveraineté. Donc, ceux qui disent « Ok, je veux mettre fin à la concurrence fiscale », dit « Je mets fin à ma souveraineté fiscale ». La France dit toujours « Oui, il faut s'attaquer aux paradis fiscaux », mais dans la réalité, la France ne fait rien. J'ai publié il y a 3 ans une grande enquête qui a été aussi reprise par La Croix sur la façon dont l'État français, en tant qu'actionnaire, utilise le paradis fiscaux, dans le cas échéant, les Pays-Bas. Les Pays-Bas est un paradis fiscal important pour plein d'entreprises internationales. Mais par exemple, je ne sais pas parmi vous, il y a des gens qui portent Chanel ou peut-être juste le parfum, mais en tout cas, c'est un parfum 100% néerlandais. Vous avez sans doute des meubles d'IKEA. Vous dites, IKEA c'est suédois, c'est 100% néerlandais. Vous allez prendre un café chez Starbucks, enfin si vous avez mauvais goût, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est un café 100% néerlandais. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de ce paradis fiscal, mais aussi de l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, et même en France il y a des paradis fiscaux, parce qu'il y a des zones franches, il y a les Antilles, on paye moins, il y a la Corse, il y a beaucoup de régimes différents pour faire la concurrence fiscale. Et le pire, dans mon enquête, je l'ai démontré, c'est que l'État français est le plus grand utilisateur des pays, des paradis fiscaux, de par les entreprises dont il est actionnaire, qui investissent beaucoup ou qui ont des constructions extrêmement sophistiquées et incompréhensibles aux Pays-Bas ou en Belgique, au Luxembourg. Par exemple, Orange, ça appartient toujours à 27% à l'État, EDF, 85%. Et il y a plein d'autres entreprises dont vous et moi, en tant que contribuables français, sont des actionnaires. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet et qui, à mon avis, ne disparaîtra jamais. Parce que là, encore une fois, c'est aussi celui qui dit « Ok, je vais mettre fin à la concurrence fiscale », il dit grosso modo « Je vais supprimer mon pays ». Donc, pour les deux suggestions, je suis absolument favorable de mettre fin à l'optimisation fiscale.
Merci, Carole Ulmer.
Rapidement, sur la crise grecque, alors je ne pense pas que ça signe la fin de l'Europe, sinon on serait déjà plus là. parce que le pire s'est déroulé il y a 2-3 ans, où là effectivement on a atteint des sommets de tensions très élevés entre différents pays. Il y avait effectivement des sous-jacents culturels. On savait aussi très bien que la Grèce maquillait ses comptes. Je pense pas que les raisons de faire entrer la Grèce dans la zone euro étaient purement des raisons marketing. Je pense qu'il y avait quand même des raisons politiques d'aider la Grèce aussi à sortir d'une situation de dictature. Et donc il y avait d'autres considérations que purement marketing. Et que c'était discutable. Il y avait une vraie responsabilité probablement de la Commission européenne de mieux contrôler ce qui s'y passait, c'est certain. La Commission européenne signalait pourtant déjà depuis quelques années qu'il y avait des problèmes dans les comptes publics grecs, mais tout le monde s'en fichait royalement. C'est-à-dire que tous les États membres négligeaient gentiment, fermaient les yeux sur tout ça. Donc la responsabilité, elle est chez nous, elle est dans les États membres qui n'ont pas voulu regarder ce problème de trop près parce que ça sentait pas très bon et qu'on voulait pas trop se mêler de ce genre de choses. Donc résultat, ça nous a exposé en pleine figure avec toutes les tensions qu'on connaît. Effectivement, je pense qu'on est passé à deux doigts du groupe. Je pense que la plus grave conséquence de tout cela a été dans les opinions publiques, la manière dont on a géré cette implication des institutions européennes qui ont débarqué à Athènes en disant bah maintenant c'est nous qui allons faire la politique et on va vous montrer ce que c'est parce que vous faites vraiment n'importe quoi en Grèce. Ça a eu des effets, je pense, désastreux vraiment sur les opinions publiques en Grèce, mais aussi dans toutes les opinions publiques du sud de l'Europe qui se sont dit « Ouh là là, mais c'est qui ces sauvages de Bruxelles qui débarquent et qui vont faire la loi à la place de nos hommes politiques nationaux ?» Ça a eu, et je pense que ça en a encore, des conséquences en termes démocratiques qu'on mesure probablement pas encore suffisamment. Et sur lesquels il faut travailler. Mais pour autant, comme je le disais au début, on est quand même dans un moment européen. On est quand même dans un moment où, notamment par l'action de la France, de l'Allemagne, de l'Italie aussi, qui a toujours été fer de lance de propositions durant toutes ces années, alors que pourtant le pays était en grosse difficulté, alors que pourtant ils ont fait chez eux des réformes extrêmement difficiles, ils étaient toujours force de proposition pour investir au niveau européen, pour relancer la zone euro, etc. Voilà, je pense vraiment qu'on a passé un certain cap et qu'on est là dans un moment où on est plus dans une construction positive que sur, j'allais dire, revenir sur ces épisodes douloureux, très mauvaise gestion de cette crise. Donc même si effectivement le dossier n'est pas clos et qu'il reste un certain nombre de choses à traiter sur que va-t-on faire de cette dette grecque et comment va-t-on passer l'éponge sans qu'on ne perde pas la face. Sur la question Europe fédérale à 6 pays, je rejoins complètement ce qui a été dit. On est dans une géométrie variable de facto depuis quelque temps et je pense que ça va aller en s'accentuant. Je pense qu'il y a vraiment plutôt là quelque chose qui se joue au niveau de la zone euro, qui est tout à fait déterminant dans les années à venir. Réussit-on ou non à consolider cette union économique et monétaire autour de l'euro, en la dotant, comme je le disais tout à l'heure, à la fois d'une politique économique et monétaire. Voilà. Est-ce qu'on arrive à consolider ce premier cercle sans pour autant laisser tomber ce deuxième cercle des pays qui n'y sont pas encore dans cette zone euro et surtout sans laisser tomber non plus le troisième cercle, c'est-à-dire nos pays voisins. N'oublions pas ce qui s'est passé en Ukraine il n'y a pas si longtemps que ça et on connaît encore les difficultés qui viennent dans ce pays-là. Ne laissons pas tomber non plus ces pays voisins, cette politique de voisinage parce que comme cela a été évoqué tout à l'heure, c'est sur l'Europe que ces difficultés risquent de se répercuter aussi plus vite que l'on ne le voudrait. Donc on est déjà dans cette géométrie des cercles multiples et variables et selon les sujets sur lesquels l'on évoque, cette géométrie sera différente. Le Brexit, les Britanniques vont sortir de l'Union européenne. Et pour autant, on a des coopérations policières de lutte contre le terrorisme qui sont actives en ce moment et les Britanniques sont particulièrement bons sur ces sujets-là. Va-t-on être assez stupide pour mettre à la poubelle ces coopérations policières de justice avec les Britanniques, même si les Britanniques sortent de l'Union européenne, n'a-t-on pas intérêt à la fois, nous, Européens, mais aussi eux, Britanniques, à ce que l'on continue à avoir ces coopérations judiciaires et policières de lutte contre le terrorisme? J'espère qu'on aura l'intelligence de créer ce qu'il faudra pour réussir à conserver ces coopérations dans un cercle qui sera différent. Donc on va avoir effectivement quelque chose de très compliqué avec plein de cercles dans tous les sens selon les sujets. Effectivement, ça va pas être facile à enseigner, mais ça sera probablement ce vers quoi on s'oriente. Puis un dernier mot sur la politique fiscale. C'est un serpent de mer, c'est pas demain la veille qu'on réussira à tout mettre à plat, mais pour autant, je voulais quand même terminer sur une note plus positive que vous, ça avance. On a vu les actions de la commissaire à la politique de la concurrence, Madame Vestager, qui a mené des actions coup de poing contre des multinationales, notamment Apple, qui bénéficiaient d'un système d'optimisation fiscale dans lequel je ne rentrerai pas. Et là, c'est la Commission européenne qui punit Apple et qui lui dit non, vous pouvez pas bénéficier, vous pouvez pas jouer comme ça de la fiscalité et vous allez devoir rembourser, payer ce que vous avez touché comme optimisation fiscale. Voilà. Donc il y a quelques actions quand même dans le sens d'agir contre cette optimisation fiscale des multinationales notamment, mais le chemin est encore long pour aboutir à des taux partagés, même si c'est un sujet qui est sur la table et discuté à Bruxelles, mais discuté depuis 20-30 ans, je ne sais plus précisément.
Voilà, quelle Europe voulons-nous? Eh bien, on ne va pas refonder l'Europe ce soir, mais en tout cas, c'était important qu'on puisse prendre le temps d'échanger sur ce sujet aussi important. On voit qu'il y a des insistances différentes, des priorités différentes, des perceptions aussi, on l'a bien entendu aussi, différentes. En tout cas, on a continué la réflexion. Je vous rappelle les dates de la prochaine session des semaines sociales qui seront donc sur ce thème de « Quelle Europe voulons-nous » le 18 et 19 novembre prochain. Et puis, eh bien, je remercie en votre nom, même s'il est maintenant sans doute dans l'avion, Sandro Gozzi, Carole Ulmer, Stéphane De Vries et bien sûr Jean-Christophe Ploquin et nos amis de la Croix. Vous pourrez réécouter cette soirée sur RCF le mardi 20 juin au matin. Et puis à la sortie, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de prendre le programme 2017-2018 du Centre Sève qui est à votre disposition. Vous trouverez aussi des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation en frais. Rendez-vous le mardi 3 octobre pour la première soirée d'éthique publique de la rentrée. D'ici là, un bon été reposant et réparateur à chacun.
Permettez-moi, excusez-moi, à titre de partenaire des soirées d'études publiques, d'adresser un remerciement chaleureux à celui qui, pendant 9 ans, a animé ces soirées d'études publiques, celui qui a fondé ces soirées et qui les a animées des 79 soirées d'études publiques. Merci François.